Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc de nouveau ensemble ce soir dans Lectures en liberté pour la suite de la nouvelle de James Joyce, Les Morts. Gabriel jeta un coup d'œil sur ses tantes, et voyant un large sourire sur le visage de tante Julia et des larmes monter aux yeux de tante Kate, il se hâta de conclure. Il leva galamment son verre de porto, et tandis que chaque membre de la compagnie maniait le sien dans l'expectative, il dit à voix forte « Portons un toast à leur santé à toutes trois. Souhaitons-leur longue vie et prospérité, et puissent-elles conserver longtemps la fière situation qu'elles ont acquise elles-mêmes dans leur profession, non moins que la place d'honneur et l'affection qu'elles détiennent dans nos cœurs. » Le verre à la main, tous les convives se levèrent et, se tournant vers les trois dames assises, chantèrent en chœur. Monsieur Brown en tête. Car ce sont de gais et joyeux compagnons, car ce sont de gais et joyeux compagnons, car ce sont de gais et joyeux compagnons. Tante Kate se servait ouvertement de son mouchoir, et même tante Julia paraissait émue. Freddy Malins battait la mesure avec la fourchette à pudding, et les chanteurs se tournèrent l'un vers l'autre comme s'ils conversaient en musique, chantant avec force, sans mentir, puis se tournant vers leurs hôtesses, ils chantèrent « Car ce sont de gais et joyeux compagnons, car ce sont de gais et joyeux compagnons, car ce sont de gais et joyeux compagnons. » Les acclamations qui s'ensuivirent furent reprises par-delà la porte de la salle du souper par beaucoup d'autres convives coup sur coup. Freddy Malins, figurant le chef d'orchestre, brandissait sa fourchette. L'air pénétrant du matin s'engouffrait dans l'entrée où ils étaient réunis. Ce qui fit dire à tante Kate que l'un de vous ferme la porte. « Madame Malins va prendre la mort. »« Monsieur Brown est dehors, tante Kate, » dit Mary Jane. « Ce Brown est partout, » dit tante Kate, baissant la voix. Mary Jane rit de sa manière de dire. « Il faut avouer, » dit tante Kate avec malice, « qu'il est très attentionné. » « On le trouve toujours sur son chemin, » dit-elle, sur le même ton, « tant que durent les fêtes de la Noël. » Cette fois, elle rit elle-même avec bonhomie, puis se hâta d'ajouter « Mais dites-lui de rentrer, Mary Jane, et fermez la porte. Plaise à Dieu qu'il ne m'ait pas entendu. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit, et M. Brown rentra, riant à se tordre les côtes. Il était revêtu d'un long pardessus vert avec des parements en imitation d'astrakhan et portait sur la tête une toque fourrée de forme ovale. Il désigna l'extrémité du quai couvert de neige d'où le parvenait un sifflement prolongé et aigu. « Teddy va faire accourir tous les caps de Dublin, » dit-il. Gabriel, aux prises avec son pardessus, émergea d'un petit office derrière le bureau. Il inspecta le hall du regard et dit « Greta n'est pas encore descendue. »« Elle se prépare, » dit tante Kate. « Qui joue là-haut ?» demanda Gabriel. « Personne, tout le monde est parti. »« Oh non, tante Kate, » dit Mary Jane. « Monsieur Darcy et Miss O'Callaghan sont encore là. »« En tout cas, quelqu'un pianote, » dit Gabriel. Mary Jane jeta un coup d'œil sur Gabriel et sur Monsieur Brown et dit en frissonnant « Cela me fait froid de vous regarder, messieurs, en mitouflés de la sorte. Je ne voudrais pas avoir à faire ce voyage de retour à cette heure-ci. » Rien ne me plairait autant en cet instant, dit M. Brown avec bravoure, qu'une bonne marche dans la campagne ou qu'une promenade en voiture avec un vigoureux trotteur entre les brancards. Nous avions autrefois chez nous un très bon petit cheval, dit Tante Julia d'un ton attristé. Le Johnny d'impérissable mémoire, dit Mary Jane en riant. Tante Kate et Gabriel rirent aussi. Pourquoi ? Qu'avait-il d'étonnant ce Johnny ? Demanda M. Brown. Feu Patrick Morcan, à savoir notre grand-père templeré, expliqua Gabriel, connu communément sur ces derniers jours comme le vieux monsieur, était un fabricant de cols. Oh, voyons, Gabriel, dit Tante Kate en riant, il possédait un moulin d'amidon. Peu importe, col ou amidon, dit Gabriel. Le vieux monsieur possédait un cheval du nom de Johnny. Et Johnny travaillait dans le moulin du vieux monsieur et tournait éternellement en rond dans le but de faire marcher le moulin. Jusque-là, tout va bien, mais voici la partie tragique concernant Johnny. Un beau jour, le vieux monsieur pensa qu'il aimerait sortir en voiture avec les gens huppés, voir la revue militaire dans le parc. « Que le Seigneur ait pitié de son âme, » dit Tante Kate avec compassion. « Amen, » dit Gabriel. Donc le vieux monsieur, je viens de le dire, attela Johnny et prit son chapeau haute forme le plus neuf, son faux col le plus beau, et sortit en grande pompe de sa demeure ancestrale aux alentours de Back Lane, je crois. Tout le monde se mit à rire des façons de Gabriel, et Tante Kate dit « Oh, voyons, Gabriel, ce n'était pas à Back Lane qu'il habitait, il n'y avait là que son moulin !» Hors de sa demeure ancestrale, poursuivit Gabriel, il sortit avec Johnny. Et tout marcha à ravir, jusqu'à ce que Johnny arriva devant la statue du roi Billy. Là, soit qu'il fût tombé amoureux du cheval monté par le roi Billy, soit qu'il se crût encore au moulin, toujours est-il qu'il se mit à tourner en rond autour de la statue. Gabriel fit le tour du vestibule dans ses caoutchoucs au milieu du rire général. Il tourna sans arrêt, dit Gabriel, et le vieux monsieur, qui était un monsieur fort solennel, fut grandement indigné. « Marchez, monsieur, que signifie cette conduite, monsieur ? Johnny, Johnny, c'est inouï, je ne comprends rien à ce cheval !» Les éclats de rire qui suivirent la démonstration de Gabriel furent interrompus par un fort coup frappé à la porte. Mary Jane courut l'ouvrir et fit entrer Freddy Malins. Celui-ci, le chapeau repoussé en arrière et les épaules ramassées par le froid, arrivait tout essoufflé, la laine fumante. « Je n'ai trouvé qu'une voiture, » dit-il. « Oh, nous en trouverons une autre sur le quai, » dit Gabriel. « Oui, » dit Tante Kate, « il vaut mieux ne pas laisser Madame Malins attendre au courant d'air. » Madame Malins, aidée de son fils et de M. Brown, descendit les marches et après bien des manœuvres, fut hissée dans la voiture. Freddy Malins y grimpa derrière elle et passa un long moment à l'installer sur la banquette, M. Brown l'assistant de ses conseils. Enfin, on l'avait confortablement assise et Freddy Malins invita M. Brown à entrer dans la voiture. Il y eut quelques propos échangés, puis M. Brown se décida. Le cocher s'enveloppa les genoux de sa couverture et se pencha pour connaître l'adresse. La confusion s'accrut encore et le cocher fut instruit différemment par Freddy Malins et M. Brown, qui avaient passé chacun la tête hors d'une portière. Il s'agissait de savoir où déposer M. Brown en cours de route, et de la porte d'entrée, Tante Kate, Tante Julia et Mary Jane prenaient part à la discussion avec des instructions contradictoires et force éclats de rire. Freddy Malins, lui, ne pouvait plus parler tant il riait. Il mettait la tête à la portière et la retirait à tout instant au risque de perdre son chapeau et tenait sa mère au courant des progrès de la discussion jusqu'à ce que finalement M. Brown, dominant l'hilarité générale, cria au cocher affolé « Connaissez-vous Trinity College ?»« Oui, monsieur, » dit le cocher. « Eh bien, filez droit sur le portail de Trinity College, » dit M. Brown, « puis je vous dirai où aller. Vous comprenez à présent ?»« Oui, monsieur, » dit le cocher. « Partez comme une flèche !» « Bien, monsieur, » dit le cocher. Il cingla son cheval et la voiture brinque-balla le long des quais, suivie d'un cœur d'éclats de rire et d'adieu. Gabriel n'avait pas suivi jusqu'à la porte les autres. Il se tenait dans une partie sombre de l'entrée, regardant en haut de l'escalier. Une femme se tenait sur le premier palier, dans l'ombre aussi. Il n'apercevait pas son visage, mais il voyait les panneaux briques et saumons de sa jupe que l'ombre faisait paraître noir et blanc. C'était sa femme. Elle s'appuyait à la rampe, écoutant quelque chose. Gabriel, surpris de son immobilité, prêtait l'oreille également. Mais il n'entendait guère que le bruit des rires et des disputes sur les marches de la porte d'entrée, quelques accords frappés sur le piano et quelques notes émises par une voix d'homme. Il se tint coi dans l'obscurité du hall, s'efforçant de reconnaître l'air que chantait la voix, levant les yeux sur sa femme. Il y avait de la grâce et du mystère dans son attitude, comme si elle symbolisait quelque chose. Il se demanda de quoi une femme, qui se tient dans l'ombre de l'escalier, écoutant une musique lointaine, pouvait bien être le symbole. S'il était peintre, il la peindrait dans cette attitude. Son chapeau de feutre bleu mettait en valeur le reflet bronzé de ses cheveux sur le fond noir, et les panneaux foncés de sa jupe feraient ressortir les panneaux clairs. Musique lointaine serait le nom qu'il donnerait au tableau, s'il était peintre. La porte cochère fut refermée et tante Kate, tante Julia et Mary Jane gagnèrent le hall, riant encore. « N'est-ce pas que Freddy est terrible ?» dit Mary Jane. « Vraiment terrible !» Gabriel, sans répondre, indiqua l'escalier où se trouvait sa femme. Maintenant que la porte d'entrée était close, la voix et le piano devenaient plus distinctes. Gabriel leva la main pour qu'on gardât le silence. La chanson paraissait écrite sur l'ancien mode irlandais et le chanteur semblait aussi peu certain des paroles que de sa voix. La voix, voilée et rendue plaintive par l'éloignement, semblait souligner la phrase mélodique avec des mots qui exprimaient la détresse. « Oh, la pluie tombe sur ma lourde chevelure, la rosée humecte ma peau, mon enfant gît glacé. »
Un fiacre à lait trottinant, tiens, un tiens, un tiens, hop là, un fiacre à lait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, tiens, un tiens, hop là, derrière les stores baissés, on entendit des baisers. Puis une voix criant Léon, tia un tia hudia, hop là, puis une voix criant Léon, tu me fais mal, ôtons l'orgnon. Un vieux monsieur qui passait, tia un tia hudia, hop là, un vieux monsieur qui passait, s'écrimait, on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix. Tia, un tia, hudia, hop là, ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, tia, un tia, hudia, hop là, mais il glisse sur le sol mouillé, craque le v'là escrabouillé. Du fiacre, une dame sort et dit, tia, un tia, hudia, hop là, du fiacre, une dame sort et dit, oh, chouette Léon, c'est mon mari, y a plus besoin de nous cacher. Dia, dia, du dia, hop là, y a plus besoin de nous cacher. Donne donc 100 sous à se cocher. Un fiacre à lettre dinant, jaune avec un crochet blanc. Un fiacre à lettre dinant, jaune avec un crochet blanc.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et nous voici donc de nouveau ensemble, après cette pause de musique, pour la suite de la nouvelle de James Joyce, Les Morts. Oh ! S'écria Mary Jane. C'est Monsieur Darcy, et il a refusé de chanter toute la soirée. Oh ! Je vais lui faire chanter quelque chose avant qu'il ne s'en aille. Oui, je vous en prie, Mary Jane, dit Tante Kate. Mary Jane, repoussant les autres, courut vers l'escalier, mais avant qu'elle ne l'eût atteint, le chant s'était tu, et le piano fut brusquement fermé. « Oh, quel dommage » s'écria-t-elle. « Est-ce qu'il descend, Greta ?» Gabriel entendit sa femme répondre affirmativement et descendre vers eux. Monsieur Darcy et Miss O'Callaghan la suivaient. « Oh, Monsieur Darcy !» s'écria Mary Jane. « Ce n'est pas bien de votre part de vous interrompre de la sorte, alors que nous vous écoutions avec ravissement. » Madame Conroy et moi l'avons persécuté toute la soirée, dit Miss O'Callaghan. Il nous a dit qu'il avait un rhume affreux et qu'il ne pouvait pas chanter. Oh, Monsieur Darcy, dit Tante Kate, vous avez dit là un grand mensonge. Ne vous voyez-vous pas que je suis rauque comme un crapaud, dit Monsieur Darcy rudement. Il passa vivement dans l'office pour mettre son pardessus. Les autres, déconcertés par son impolitesse, ne trouvèrent rien à dire. Tante Kate plissa le front et fit signe aux autres d'abandonner le sujet. M. Darcy s'enveloppait le cou avec soin et fronçait les sourcils. « C'est le temps, » dit Tante Julia après un moment. « Oui, oui, tout le monde est enrhumé, » se hâta d'ajouter Tante Kate. « Tout le monde !»« On dit, » dit Mary Jane, « que depuis 30 ans, nous n'avons pas eu de neige semblable. Et j'ai lu ce matin dans les journaux que c'est général en toute l'Irlande. »«
J'adore la neige, » dit Tante Julia tristement. « Moi aussi, » dit Miss O'Callaghan, « je trouve que Noël n'a jamais l'air d'un vrai Noël s'il n'y a pas de neige sur le sol. »
« Mais le pauvre Monsieur Darcy n'aime pas la neige, » dit Tante Kate en souriant. Monsieur Darcy revint de l'office emmitouflé et boutonné jusqu'au menton, et d'un ton contrit il raconta l'origine de son rhume. Chacun le conseilla différemment, dit que c'était grand dommage, et l'engagea à prendre des précautions infinies pour sa gorge à l'air de la nuit. Gabriel observait sa femme, qui ne prenait aucune part à la conversation. Elle se tenait en plein sous l'imposte poussiéreuse, et la lumière du gaz illuminait les riches tons bronzés de sa chevelure que Gabriel avait vu faire sécher devant le feu quelques jours auparavant. Elle avait repris la même attitude et semblait étrangère à ce qui se disait autour d'elle. Finalement, elle se tourna vers eux. Et Gabriel vit qu'elle avait les joues rouges et les yeux brillants. Un flot de joie se leva dans son cœur. « Monsieur Darcy, dit-elle, que chantiez-vous ?»«
The Last of Aunt Jim, dit Monsieur Darcy. « Mais je m'en souviens mal, pourquoi ? Le connaissez-vous ?»«
Le nom ne me revenait pas. »
« C'est une très jolie chanson, dit Mary Jane. « Je regrette que vous n'ayez pas été en voix ce soir. »
« Allons, Mary Jane, dit Tante Kate, ne tourmentez pas Monsieur Darcy, je ne veux pas qu'on le tourmente. »
Voyant que tout le monde était prêt à partir, elle les reconduisit jusqu'à la porte où on se souhaita une bonne nuit.
« Eh bien, bonne nuit, Tante Kate, et merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit, Gabriel, bonne nuit, Greta, bonne nuit, Tante Kate, et merci beaucoup, bonne nuit, Tante Julia. Oh, bonne nuit, Greta, je ne vous voyais pas. Bonne nuit, Monsieur Darcy, bonne nuit, Miss O'Callaghan, bonne nuit, Miss Morcan, bonne nuit de nouveau, bonne nuit à tous, bon retour, bonne nuit, bonne nuit. »
Il faisait à peine jour. Une lumière morne, jaunâtre, se maintenait au-dessus des maisons et de la rivière. Le ciel semblait descendre.
On marchait sur la neige fondue. Il n'en restait que quelques traînées sur les toits, les parapets du quai et les balustrades. La lumière des réverbères rougeoyait encore dans l'air brumeux, et par-delà la rivière, le palais de justice se détachait menaçant contre le ciel lourd. Elle marchait en avant avec M. Dercy. Ses souliers empaquetés dans un papier brun serré sous son bras et ses mains retroussant sa jupe pour la préserver de la boue. Toute grâce avait disparu de son allure, mais les yeux de Gabriel brillaient encore de bonheur. Le sang bouillonnait dans ses veines, et à travers son cerveau, les pensées se pressaient fières, joyeuses, tendres, chevaleresques. Elle marchait devant lui, si légère et si droite, qu'il brûlait de la rejoindre sans bruit, de la saisir par les épaules et de lui murmurer à l'oreille quelque chose à la fois de sot et d'affectueux. Elle lui semblait si fragile qu'il aurait voulu la protéger d'un danger quelconque, puis se retrouver seul avec elle. Des moments de leur vie intime s'allumaient tout à coup, comme des étoiles dans son souvenir. À côté de sa tasse à déjeuner, il y avait une enveloppe mauve, et il la caressait de la main. Des oiseaux gazouillaient parmi le lierre, et la trame ensoleillée du rideau miroitait sur le parquet. Il ne pouvait pas manger, tant il était joyeux. Ils se tenaient tous deux sur la plateforme bondée, et il lui glissait un billet dans le creux tiède de son gant. Il était dehors avec elle dans le froid, regardant à travers une fenêtre grillagée un homme qui soufflait des bouteilles au-dessus d'une fournaise. Il faisait froid, très froid. Son visage qui embaumait l'air était proche du sien, et tout à coup il criait à l'ouvrier « Le feu est chaud, monsieur !» Mais le bruit de la fournaise empêchait l'homme d'entendre. Cela valait mieux ainsi. Il aurait pu répondre grossièrement. Une vague de joie encore plus tendre jaillit de son cœur et se répandit en un torrent chaud dans ses artères. Tels les feux caressants des étoiles, des moments de leur vie intime, que personne ne savait ni ne saurait jamais, s'allumaient dans son souvenir. Il aurait souhaité lui remémorer ces moments, lui faire oublier les années de leur morne existence conjugale et ne se souvenir que de leurs moments d'extase. Car les années, il le sentait, n'avaient fané ni son âme à lui, ni la sienne. Leurs enfants, ses œuvres, les soucis du ménage n'avaient pas éteint complètement le tendre feu de leurs âmes. Dans une lettre qu'il lui avait écrite, il avait dit « Pourquoi des mots comme ceux-ci me semble aussi vide, aussi froid. Est-ce parce qu'il n'y a pas de mots qui soient assez tendres pour être votre nom ?» Telle une musique lointaine, ces paroles écrites des années auparavant venaient à lui du passé. Il voulait être seul avec elle. Lorsque les autres seraient partis, lorsqu'elle et lui se retrouveraient dans la chambre d'hôtel, alors ils seraient seuls ensemble. Il l'appellerait doucement. Greta. Peut-être n'entendrait-elle pas tout de suite, elle serait en train de se dévêtir. Puis quelque chose dans sa voix à lui la frapperait. Elle se retournerait et le regarderait. Au coin de Winnie Tavern Street, ils rencontrèrent une voiture. Il était heureux que son fracas lui évitât de parler. Elle regardait par la portière et semblait lasse. Les autres ne parlaient qu'à demi-mot, désignant quelque édifice ou quelque rue. Le cheval galopait péniblement sous le ciel nébuleux du matin, traînant derrière lui la vieille guimbarde bruyante, et de nouveau Gabriel se retrouvait auprès d'elle, dans une voiture galopant pour prendre le bateau, filant à toute vitesse vers leur lune de miel. Comme la voiture roulait sur le pont O'Connell, Miss O'Callaghan dit « On ne traverse jamais le pont O'Connell sans voir un cheval blanc, dit-on. « Je vois un homme blanc cette fois, dit Gabriel. Où ? Demanda M. Dercy. Gabriel montra la statue que recouvraient les plaques de neige, puis il la salua familièrement de la tête et de la main. « Bonne nuit, Daniel, fit-il gaiement. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'hôtel, Gabriel sauta dehors et, en dépit des protestations de M. Dercy, paya le cocher. Il lui donna 1 franc de pourboire. L'homme salua et dit « Je vous souhaite une année prospère. » « À vous de même, » dit Gabriel cordialement. Greta s'appuya à son bras en sortant de la voiture et aussi pendant qu'elle se tenait sur le trottoir, souhaitant bonne nuit aux autres. Elle s'appuyait sur son bras avec autant de légèreté que lorsqu'elle avait dansé avec lui quelques heures auparavant. Il s'était senti fier et heureux. Heureux qu'elle fût sienne, fière de sa grâce et de son épanouissement d'épouse. Mais maintenant, après le réveil de tant de souvenirs, au premier contact de son corps harmonieux, étrange et parfumé, il fut traversé d'une vague de sensualité aiguë. À la faveur du silence qu'elle lui gardait, il lui prit le bras et le serra contre lui. Et comme tous deux se tenaient devant la porte de l'hôtel, il sentit qu'ils s'étaient évadés de leur existence et de leurs devoirs quotidiens, de leur foyer et de leurs amis, et qu'ils s'étaient enfuis rayonnants, un peu fous, vers de nouvelles aventures. Un vieil homme sommeillait dans le hall, assis sur une grande chaise à baldaquin. Il alluma une bougie dans le bureau et monta l'escalier le premier. Ils le suivaient en silence, leurs pas retombaient avec un bruit mat sur l'épais tapis. Elle gravissait l'escalier derrière le portier, la tête courbée par l'ascension, les épaules frêles, ployant comme sous un poids, la jupe étroitement ramassée autour d'elle. Il aurait pu lui jeter les bras autour des hanches et la retenir, tant ses bras tremblaient du désir de s'emparer d'elle, et seuls ses ongles incrustés dans ses mains continrent l'élan déréglé de son corps. Le portier fit une halte sur l'escalier pour fixer la bougie qui coulait. Eux aussi s'arrêtèrent à une marche de distance. Dans le silence, Gabriel entendait la cire fondue s'égoutter sur le plateau et son propre cœur battre contre ses côtes. Le portier les conduisit le long d'un corridor et ouvrit une porte, puis il fixa sa bougie branlante sur une table de toilette et demanda à quelle heure il voulait être réveillé le lendemain. « À 8 heures, » dit Gabriel. Le portier désigna le commutateur et bredouilla une excuse, mais Gabriel y coupa court. « Nous ne voulons pas de lumière, il en vient bien assez de la rue. Dites donc, mon brave, » ajouta-t-il, désignant la bougie, « faites-nous le plaisir d'emporter cet objet. » Le portier reprit sa bougie, mais avec lenteur. Une idée aussi originale le surprenait. Puis il murmura un « bonne nuit » et sortit. Gabriel poussa le verrou. Du réverbère, un ray de lumière livide s'allongeait à travers les fenêtres jusqu'à la porte. Gabriel jeta son pardessus et son chapeau sur un canapé et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dehors, afin que son émotion s'apaisât un peu. Puis il se retourna et s'appuya contre la commode, le dos à la lumière. Elle avait ôté son chapeau et son manteau et se tenait devant une grande psyché dégrafant son corsage. Gabriel se tut quelques moments, l'observant, puis dit « Greta !» Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette lecture de la nouvelle de James Joyce, « Les morts », et nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez reprendre le podcast de cette émission sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.